atteint l'expiation. Nous allons le définir au sens théologique, ce terme. Et étroitement lié à l'éthique chrétienne, selon le passage que nous venons de voir. J'ai essayé de lire à plusieurs reprises cet épître, et il est fascinant, et c'est un épître très profond, dans le sens que l'éthique est développée dans tous les domaines dans ce livre. Mais ce qui nous est important ce matin à développer, c'est la relation étroite, ce qui est à la base de cette éthique, selon l'apôtre Pierre. Comme nous venons de lire, Pierre, dans ce paragraphe, s'adresse aux serviteurs. Verset 18, ça veut dire les domestiques dans la maison. La plupart à l'époque, ce sont des esclaves. Et comme il nous est rapporté, ils souffrent à cause des injustices subies de par leur maître. Il nous est rapporté, ça peut arriver qu'ils tombent dans une maison où le maître est d'un caractère difficile. Et ce que nous voyons, c'est que dans cette circonstance, Pierre les exhorte à réagir selon une éthique biblique fondée sur l'exemple de Christ. Pour que nous puissions étudier comme il faut ce texte, j'aimerais proposer trois points à partir de ce passage que nous venons de lire. Nous allons voir premièrement le fondement de cette éthique. Après cela, nous allons voir en deuxième point les domaines visés dans cette éthique, selon Pierre. Et en dernier point, la doctrine de l'expiation par substitution qui est à la base de cette éthique. Voilà les trois points que nous allons développer ce matin. D'abord, regardons de plus près le texte et quelle est à la base de cette éthique qu'il développe, non seulement dans cette partie, mais plus tard dans les autres chapitres aussi. Donc, à la base de cette éthique, Pierre va se servir de l'Ancien Testament. Plus précisément, le texte d'Ésaïe 53. Normalement, donc, le texte que nous avons devant nous, 1 Pierre, chapitre 2, il est basé sur Ésaïe 53. Dommage, j'ai le passage ici, mais ça n'apparaît pas à cause des problèmes techniques. Mais il va se servir de la prophétie de Ésaïe, Ésaïe 53. Et Ésaïe 53, j'aimerais juste le souligner au passage, est cité à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament. Je peux vous donner les références si ça vous intéresse. Une fois dans chaque évangile, Ésaïe 53, donc quelques versets cités dans chaque évangile, cité deux fois dans Actes des Apôtres, une fois dans l'Épître aux Romains, une fois dans l'Épître aux Éphésiens, une fois dans l'Épître aux Hébreux, et trois fois dans l'Épître de 1 Pierre. Mais ce qui nous intéresse, c'est surtout de voir maintenant donc que Pierre va développer son argument à partir de Ésaïe 53. Vous voyez le verset 21, « Christ a souffert pour vous ». Il fait référence à la prophétie d'Ésaïe au verset 49, le chapitre 53. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Vous voyez, les souffrances, le verbe souffrir. Vous continuez le verset 22. Lui qui n'a point commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Il va citer Ésaïe 53, verset 9. Quoiqu'il n'ait point commis de violence, et qu'il n'y ait point de fraude dans sa bouche. Vous voyez la similarité? Il fait appel directement à Ésaïe 53. Verset suivant, verset 23. Injurié ne rendait point d'injure. Maltraité ne faisait point de menace. Et il va citer le verset 7 d'Ésaïe 53. Maltraité, il n'a point ouvert la bouche. Verset 24, la première partie, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, il va citer en référence Ésaïe 53, verset 12. Il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Continuons le verset 24, deuxième partie. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéri, il va citer le verset 5 de Ésaïe 53, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et le verset 25, vous étiez comme des brebis errantes. Il va faire référence au verset 6 de Ésaïe 53, nous étions tous errants comme des brebis. Donc, au fondement de cette éthique qu'il développe dans cette épître, à la base, c'est le chapitre 53 de Ésaïe. J'aimerais juste citer quelques points. Vous savez que Ésaïe 53, je dirais, c'est la page d'or de la prophétie messianique. Et j'ai lu quelque part, certains théologiens le qualifient même comme l'évangile selon Ésaïe, ou bien l'évangile de l'Ancien Testament. Et comme je l'ai mentionné au départ, c'est probablement le chapitre de l'Ancien Testament qui est le plus souvent cité dans le Nouveau Testament. Pas les références que je vous ai données tout à l'heure. Mais qu'est-ce que nous apprenons de cela? On peut d'abord dire que les injustices subies par Christ, d'une part, il l'a subi parce qu'il l'a subi à notre place. Si on revient en arrière, nous avons remarqué au verset 21, pour vous, pour nos péchés, c'est à notre place qu'il a subi ces souffrances injustes. Et d'autre part, Christ ne mérite aucun châtiment. Il nous est rappelé au verset 22 qu'il n'a point commis de péché. Et dans 1 Jean 3, 5, il n'y a point en lui de péché, il est sans péché. Et l'apôtre Paul, ce n'est pas mentionné là, mais dans 2 Corinthiens 5, 21, affirme qu'il n'a point connu de péché. Donc c'est de telle manière, ces souffrances qu'il subit à la croix est injuste, parce que c'est à notre place qu'il a subi. Et il ne le mérite pas, parce qu'il est sans péché. Il n'a point commis de péché. Il est sans reproche. Revenons maintenant au deuxième point où j'ai intitulé les domaines visés dans cette éthique. Il y a quatre points qui sont négatifs en quelque sorte parce que c'est toujours indiqué par la forme négative ne point. Revenez dans votre texte, 1 Pierre chapitre 2. Nous allons voir quatre points qui indiquent des domaines. Mais c'est à la forme négative. Et il y en a un seul domaine qui est positif. Donc ces quatre domaines sont indiqués par la forme ne point. Regardons le verset 22. Lui qui n'a point commis de péché. Donc il n'a point commis de péché. Le domaine qui va être visé dans l'éthique, c'est le domaine du péché. Continuons le deuxième point. Dans sa bouche ne s'est point trouvé de fraude. Vous voyez toujours la négation, le point, et le domaine visé, c'est le mensonge, la fraude dans la bouche. Troisième domaine, injurié, vous voyez toujours la forme négative, le point, il ne rendait point d'injure. Le domaine qui va être visé, c'est le domaine donc de l'injure. Plutôt ici, hein, quand on lit le texte, parlons donc de vengeance. Et quatrième point, maltraité ne faisait point de menace. Vous voyez ici donc, il ne veut pas régler de lui-même, mais il va montrer plutôt la douceur. On va le démontrer tout à l'heure. Et le cinquième domaine qui est visé, il s'en remettait à celui qui juge justement. C'est confier son sort à Dieu qui est le seul juge et le, je dirais, au tribunal divin. Donc nous allons voir assez rapidement ces cinq domaines qui est visé dans cette éthique. Premier point, Christ n'a point commis de péché. La souffrance n'a pas amené Jésus à pécher. Vous savez que le fait de souffrir peut parfois nous amener à pécher. Donc nous pouvons être pleins de ressentiment pour la façon dont on nous traite. Et alors nous abandonnons toute résistance et nous cédons facilement à la tentation du péché. Je voulais juste illustrer cela par un exemple. Vous connaissez Job? C'est un homme qui, aux yeux de Dieu, c'est un homme intègre, juste. Mais cet homme a souffert énormément. Il a perdu ses enfants, ses biens. Il était touché dans sa propre santé. Et si vous voulez regarder dans Job chapitre 1, versets 21-22, il dit ceci. Job chapitre 1, versets 21-22. Je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel l'a donné et l'Éternel a ôté et que le nom de l'Éternel soit béni. Je vous ai énuméré brièvement tout ce qu'il a subi comme épreuve. Mais dans tout cela, il était lucide. Tout ce qu'il a reçu vient de Dieu et Dieu aussi. Il peut l'ôter. Et il avait dit dans le texte qu'il a béni le nom de l'Éternel. Et la suite du verset 22, en tout cela, Job ne pécha point et n'attribue rien d'injuste à Dieu. Je voulais juste voir en parallèle, à côté, la réaction de sa femme. Job chapitre 1, verset 9, il nous est dit, sa femme lui dit, tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudit Dieu et meurs. Vous voyez, notre réaction face à la souffrance peut être comme celui de Job, mais pourrait être aussi comme celle de sa femme. Devant la souffrance, elle a commis le péché de maudire Dieu, pas comme son mari, qui au contraire, lui, il bénit Dieu. Il nous est rappelé par Pierre que la souffrance n'a pas amené Jésus à pécher. Imitant son exemple, comme celui de Job. Et vous savez, dans le verset 21, il est dit, c'est à cela que vous avez été appelés. Ces domestiques, chrétiens, au service de leur maître, subissent des injustices. Et Paul dit, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous êtes appelés. Ayant en pensée ces vérités pour nous aujourd'hui aussi, peut-être au milieu du travail, à la faculté, dans vos voisinages, vous faites ce qui est correct et vous subissez quelque chose d'injuste. Que cela ne soit pas une occasion qui nous amène à pécher. Au contraire, une occasion pour que nous puissions reconnaître la main de Dieu et sa grâce dans ces situations. Deuxième point, deuxième domaine qui est visé par l'apôtre Pierre. Il cite dans la bouche duquel, en faisant référence donc à Isaïe 53, ne s'est point trouvé de fraude ou de mensonge. Vous savez, lorsque quelqu'un nous fait souffrir, nous pourrions être tentés de mentir, n'est-ce pas, ou de frauder pour échapper à la souffrance. J'aimerais vous citer un exemple d'Abraham. Regardez votre Bible dans Genèse 12, versets 11 à 13, où, quand sa vie a été menacée, il cédait facilement au mensonge pour se protéger. Christ, nous est-il dit ici, dans sa bouche, ne s'est point trouvé de fraude ni de mensonge. Regardons Genèse 12, versets 11 à 13. Pour citer un exemple, Abraham, comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Ils me tueront et te laisseront la vie. Dis, je te prie, verset 13, tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. » Vous voyez, il veut échapper parce que sa vie est menacée et tomber dans le mensonge. Regardons un autre exemple dans le Nouveau Testament. L'apôtre Pierre lui-même qui a écrit l'épître que nous avons devant nos yeux. Regardons Matthieu 26, versets 69 à 74. Lors de l'arrestation du Seigneur Jésus-Christ. Cependant, Pierre, verset 69, était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen ?» Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau, avec serment. Imaginez, « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dit à Pierre, « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors, il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussi, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, « Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Étant sorti, il pleura amèrement. Les souffrances peuvent nous amener à mentir. Il est dit ici, Jésus dans sa bouche, il ne s'est point trouvé de fraude, de mensonge. Troisième point, injurier ne rendait point d'injure, c'est-à-dire ne se venge pas. Lorsqu'on nous insulte, il nous est facile de nous mettre en colère et de rendre l'appareil, n'est-ce pas? Il nous est rapporté dans Luc 22, verset 63, concernant le Seigneur Jésus-Christ, « Les hommes qui tenaient Jésus se moquaient de lui et le frappaient. » Verset 65, « Ils proféraient contre lui beaucoup d'autres injures. » Et Pierre, comme nous venons de le citer, était témoin de cette arrestation. Et il atteste ici dans le verset 23 de 1 Pierre, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, en parlant du Christ, il était témoin. Et il exhorte maintenant un peu plus loin dans le chapitre 3, verset 9 de 1 Pierre, il exhorte les chrétiens en disant, ne rendez point mal pour le mal, ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter, ou en d'autres termes, de récolter la bénédiction. Pierre demande à ces chrétiens qui souffrent de ne pas manifester l'esprit de vengeance, mais d'imiter Christ, parce qu'il y a des bénédictions à récolter dans cette attitude de mettre son sort entre la main de Dieu. Et cette vérité est aussi explicitée par l'apôtre Paul dans Romains 12. J'aimerais que vous regardiez votre Bible dans Romains 12, verset 14. Romains chapitre 12, verset 14. Paul qui énonce les mêmes principes. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Verset 17, « Ne rendez pas le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. » Verset 19, « Ne vous vengez point vous-même. » Il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Verset 21, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Ça, c'est le principe qui nous est laissé aussi en tant que chrétiens, quand nous subissons des situations d'injustice et que nous avons tendance à céder aux vengeances. Nous avons besoin de la grâce de Dieu Mais cette vérité est telle que c'est ainsi que nous pouvons être aussi à l'exemple de Christ lui-même. Quatrième point, maltraité, il ne faisait point de menace. Le domaine touché ici, c'est la douceur. Il nous est rapporté dans Ésaïe 53, verset 7, que maltraité, il n'a point ouvert la bouche. Et après, le prophète cite deux motifs. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, premier motif. Et deuxième motif, semblable à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Et il va terminer par dire, il n'a point ouvert la bouche. Le non-discours du serviteur, ou je dirais de son silence face à ses persécuteurs, avec les deux motifs qui est fourni dans ce passage, à savoir l'image de l'agneau amené à la boucherie et l'image d'une brebis muette, est expliqué comme un signe d'abandon total de son sort à l'Éternel. Et nous connaissons que cette prophétie écrite 700 ans avant Jésus-Christ a trouvé son plein accomplissement dans la personne du Seigneur. Parce qu'il nous est dit, quand on parle de ce serviteur souffrant dans Ésaïe 53, nous voyons que c'est le type qui représente le Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans Actes 3, verset 13, quand Pierre parle devant des Juifs, il dit « Le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur, Jésus. » Vous voyez, le serviteur qui est cité dans ce chapitre d'Ésaïe 53 trouve son identification et son accomplissement dans la personne de Jésus. Il dit « Son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate. » Il continue dans le discours, Actes chapitre 4, versets 27 et 28. Contre ton saint serviteur, qui est ce serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et nous savons, lors de différents procès que le Seigneur Jésus-Christ a subis, par exemple, devant le tribunal du Sanhédrin, je vous cite Marc chapitre 14, versets 60 à 61. Le souverain sacrificateur se levant au milieu de l'assemblée interrogea Jésus et dit « Ne réponds-tu rien ? Qu'est-ce que ces gens déposent contre toi ?» Et verset 61, il nous est rapporté « Jésus garda le silence et ne répondit rien. » Devant Pilate, il nous est rapporté dans Marc 15, verset 3, les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations. Et Pilate l'interrogea de nouveau, « Ne réponds-tu rien ? Vois de combien de choses il t'accuse ?» Il nous est dit, Jésus ne donna plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. Qu'est-ce que cela nous enseigne ? Dans l'attitude du Seigneur Jésus-Christ. Cela nous enseigne tout simplement la douceur, comme j'ai énoncé au début. Pourquoi ? Même son droit de se défendre, il l'a mis de côté. Il n'insiste pas sur ses droits. Ça, c'est la marque de ce que la Bible appelle la douceur. La douceur, souvent, est vue comme un signe de faiblesse dans notre monde, mais c'est le contraire. C'est un signe de caractère fort. Parce que la douceur, c'est quelqu'un qui a ses avantages, mais qui le cède, qui met de côté. C'est ce qu'a fait le Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez, la douceur, c'est le huitième dans la liste du fruit de l'esprit, dans Galates 5, 22. Et Paul exhorte les chrétiens à manifester ce fruit de l'esprit qu'est la douceur dans notre quotidien. Je vous cite Philippiens 4, 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Donc le Seigneur Jésus, c'est l'homme doux par excellence. Et nous devrions aussi l'imiter dans ce domaine. Ne pas insister sur nos droits, accepter de les perdre et de les céder. C'est ce qu'il a fait. Il a cédé ses droits, même de se défendre. Il n'a point ouvert la bouche. Cinquième domaine, il s'en remettait à celui qui juge justement, le verset 23. Ici, parlant de juge, ça fait allusion à un tribunal, n'est-ce pas? Regardez le verset 23. Ça n'apparaît pas explicitement, mais quand nous lisons l'évangile, on voit dans ce verset 23 deux types de tribunaux. Quand il est question qu'il était injurié, nous l'avons vu tout à l'heure dans les évangiles, ne rendait point d'injure, maltraité, même dans ses procès. On ne lui pas donné les droits de ce qu'il mérite pour se défendre même. On a accéléré les procès pour l'amener vite à être condamné. Ça parle du tribunal humain. Et nous voyons dans la deuxième partie du verset 23, il s'en remettait au juste, à celui qui juge justement, faisant référence au tribunal divin. Il est important de souligner l'importance du verbe en grec, ici, le paradidomai, qui est traduit « se remettre au juste juge ». C'est le verbe « s'en remettre ». C'est paradidomai. Et c'est intéressant, quand on parcourt le Nouveau Testament, il est utilisé 117 fois ce verbe, traduit ici « se remettre à ». Et le sens général, d'après le dictionnaire, c'est se remettre soi-même. Il est traduit souvent dans le Louis II, se livrer ou être livré. Et je vous en ai parlé de tribunal humain. Pourquoi? Parce que ce verbe a été utilisé devant les différents types de procès, ça veut dire de tribunaux dans lesquels le Seigneur a dû faire face. Je cite par exemple devant le Sanhédrin. Devant Pilate, Jean 18, verset 35. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré. Voilà le verbe paradidomai. À moi, qu'as-tu fait? Vous voyez donc, il y a question ici du tribunal humain devant Pilate. Ces sacrificateurs, ces principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Marc 10, 33, devant le tribunal du Sanhédrin. Il est écrit dans Marc 10, 33, « Le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. » Vous voyez, il sera livré, voilà le verbe, « et il le condamnera à mort et ils le livreront aux païens. » Vous voyez? Acte 2, 23 que nous avons lu tout à l'heure, « Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. » Et vous l'avez fait mourir par la main des impies. Qu'est-ce que nous apprenons concernant cela? Nous apprenons ici que le verdict même pour condamner Jésus à mourir, ainsi que sa crucifixion, et les hommes qui vont être utilisés pour accomplir tout ceci, est manifestement contrôlé et fait partie du plan de Dieu. Le verdict de ces tribunaux humains, et que le juste est condamné injustement. Mais le verset 23, la deuxième partie, nous dit qu'après avoir été livré aux tribunaux humains, comme un malfaiteur, le Seigneur Jésus se livre lui-même au tribunal divin, dont le verdict est opposé à celui des tribunaux humains, parce qu'il est réhabilité par le juste juge. Il y a une leçon pour nous aujourd'hui aussi. Dans cela, faites-vous confiance dans les injustices que vous subissez ici sur terre, au juste juge, parce qu'il y aura un tribunal divin qui réglera ces affaires plus tard. Il nous est dit dans Actes 17, 31, Dieu a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Et Romains 2, 16, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Imitons l'exemple du Seigneur Jésus, qui s'est livré lui-même au tribunal divin et remis son sort dans les mains de ce tribunal. Devant les injustices que nous pouvons subir, dans nos passages pèlerinages ici-bas, imitant son exemple, sachant que toute action secrète qui nous est dite des hommes sera jugée. Et cette fois-ci, c'est une justice impartiale qui réglera ces choses. Et ça doit nous encourager à faire de même aussi pour nous. Nous allons voir maintenant le troisième point, la théologie à la base de cette éthique. Donc c'est la doctrine de l'expiation, je dirais par substitution, à la base de cette éthique. Nous revenons au verset 24. Reprenez votre Bible, donc le verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Surtout, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Nous allons regarder ce verset sous deux aspects. C'est comme un avion quand vous volez au-dessus et vous allez atterrir. Vous allez voir le paysage d'en haut, un peu vaste. Donc on va aller voir d'abord ce verset un peu plus haut et nous allons descendre dans notre atterrissage pour y arriver à zoomer, à voir de plus près. Vous savez, quand Pierre parle en faisant allusion ici donc à Ésaïe 53, il a porté lui-même nos péchés en son corps. Il fait allusion tout simplement à une loi, je dirais, de ce qu'on appelle le bouc émissaire. Vous avez entendu même peut-être cette semaine, en parlant beaucoup dans la radio, des exemples où on accuse quelqu'un de porter le tort à la place de quelqu'un d'autre. Il est le bouc émissaire. J'aimerais que vous tourniez votre Bible pour voir cela dans Lévitique 16. Ce passage donc nous fait allusion à un rituel qui était donné au peuple d'Israël dans la loi. C'est ce qu'on appelle donc la loi du bouc émissaire dans Lévitique chapitre 16. Et ça se déroule une fois par an lors de grand jour des expiations. De quoi il s'agit? J'aimerais que vous voyez ce qui se passe et faire le lien qu'en fin de compte, Pierre, ici, va faire référence à ce que nous lisons dans Lévitique 16. Lévitique, chapitre 16, verset 6 jusqu'à 8, d'abord. Aaron offrira son taureau expiatoire et fera l'expiation pour lui et pour sa maison. Il prendra les deux boucs et il les placera devant l'Éternel à l'entrée de la tente d'assignation. Verset 8. Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Je m'arrête. Le mot ici, qui est un peu difficile, mais les hébraïstes, donc qui sont des spécialistes, traduisent Azazel ici par émissaire. C'est pour ça que je vous parle de bouc d'Azazel ou bouc émissaire. Et il nous est cité maintenant en sautant donc au verset 10. Et le bouc sur lequel est tombé le sort pour Azazel sera placé vivant devant l'Éternel afin qu'il serve à faire l'expiation et qu'il soit lâché dans le désert pour Azazel. Nous sautons au verset 15 et 16. Il égorgea le bouc expiatoire pour le peuple et il emporta le sang au-delà du voile. Il fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Il en fera l'aspersion sur le propitiatoire et devant le propitiatoire. C'est ainsi qu'il fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des impuretés des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il fera de même pour la tente d'assignation qui est avec eux au milieu de leurs impuretés. Nous sautons maintenant au verset 20. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Verset 21. Aaron posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant. Il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Et il les mettra sur la tête du bouc, puis le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Et verset 22, le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée, et il sera chassé dans le désert. Résumons et essayons de reconstituer la scène dans notre esprit. Qu'est-ce que fait Aaron une fois par an? Il va prendre donc ici deux boucs parmi ce que le peuple offre. Il va tirer au sort, il y aura un de ces boucs qui va être égorgé et l'autre laissé vivant, comme nous venons de le dire. Le premier qui est sacrifié, donc, son sang présenté dans le sanctuaire pour expier le péché du peuple. Et le bouc émissaire, le second, ce bouc donc appelé Azazel, lui se tient tranquille. Et qu'est-ce qu'il fait Aaron? Nous l'avons lu tout à l'heure. Il va prendre ses deux mains, il le pose sur la tête de l'animal. Et qu'est-ce que fait Aaron? Il va confesser les péchés du peuple. Et par ce geste symbolique, le bouc porte sur lui les péchés du peuple. Vous voyez l'allusion avec 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Lui qui a porté nos péchés sur lui-même en son corps, sur le bois. L'idée ici, donc, c'est ce que fait le souverain sacrificateur. Donc, le bouc porte sur lui les péchés du peuple. Ensuite, ce bouc est amené dans le désert et chassé loin de toute habitation. Symboliquement, il emporte les péchés de la nation dans un endroit désertique où il ne serait jamais retrouvé. Le renvoi de ce bouc symbolise l'enlèvement total du péché et leur culpabilité après qu'Aaron a confessé les péchés de la nation entière en imposant ses mains sur la tête de l'animal. Vous savez que ce geste qu'Aaron a effectué une fois tous les ans a aussi aujourd'hui pour nous une valeur pédagogique. Parce que nous lisons dans Romains 15, 4 que toutes choses qui ont été écrites auparavant ont été écrites pour notre instruction aujourd'hui. Donc ici, le deux boucs représente une personne. Jésus le Sauveur. Nous pouvons lire dans Hébreux 9, verset 12. Il nous est dit, Christ étant venu, non avec le sang des boucs, vous voyez, mais avec son propre sang, il est entré une fois pour toutes dans les lieux saints, ayant obtenu une rédemption éternelle. La leçon pour nous aujourd'hui, c'est que Christ est à la fois le souverain sacrificateur qui entre dans le lieu très saint, mais il est à la fois aussi la victime, comme le bouc. Le sang de Christ répandu à Golgotha était le prix à payer pour nous laver de nos péchés. Mais le bouc d'Azazel ou le bouc émissaire est chargé de péchés et il portait sur lui les péchés du peuple et il est éloigné dans le désert pour éloigner à jamais les péchés du peuple qui les avait commis. Nous sommes arrivés à ce que Pierre dit, il est celui qui a porté nos péchés, comme le bouc émissaire, porté les péchés et qui est éloigné dans le désert à jamais pour que le péché soit éloigné de ceux qui l'ont commis. Il est celui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois. Il nous est dit qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Est-ce que Jésus est le bouc émissaire pour vous aussi aujourd'hui? Vous savez, les Hébreux qui méritaient leur mort, grâce à la loi du bouc émissaire, pouvaient confesser leurs péchés et par cela exprimer leur foi en ce seul moyen pour rétablir leur communion avec Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ. Si vous n'êtes pas réconcilié avec Dieu, il peut être votre bouc émissaire, celui qui porte et a porté nos péchés en son corps sur le bois. Considérez ces choses pour que vous soyez en règle avec Dieu quant au problème du péché. Mais revenons de plus près maintenant sur ce verset 24, nous allons souligner quatre faits. D'abord, dans ce verset, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps. Qu'est-ce que nous pouvons dire en premier ? Jésus-Christ a accepté d'être compté parmi les pécheurs. Le premier point que vous voyez sur le PowerPoint. Pourquoi ? Parce que Jésus-Christ est mort sur la croix et Dieu le Père lui a imputé. Ça veut dire quoi imputer ? Mettre sur le compte de Christ nos péchés. Le Père a traité comme s'il était un pécheur en lui imputant nos péchés. 2 Corinthiens 5, 21 nous dit, « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous. » Il est devenu péché pour nous dans le sens où il est devenu péché par imputation. Et il est compté parmi les pécheurs par les hommes. Mais Dieu l'a fait devenir péché pour nous. Il n'est pas dit qu'il l'a fait devenir pécheur, parce qu'il n'a point commis de péché. Et donc, il a compté parmi les pécheurs en lui imputant nos péchés. Donc, ce que nous apprend ce verset, premier point, donc, Jésus-Christ accepte d'être compté parmi les pécheurs. Mais deuxième point, dans ce verset, en son corps. Par cela, Jésus a accepté d'être le victime sacrificielle. Vous savez, le corps est toujours représentatif du sacrifice que le chrétien peut faire pour Dieu. Regardez Romains 12:1. Je vous exhorte à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Donc le corps ici souligne la réalité du sacrifice, mais également souligne le statut de victime sacrificielle. Hébreux 10:5 nous dit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. » Donc, cela nous apprend que Jésus-Christ a accepté d'être la victime sacrificielle à notre place. Et troisième point, ce que nous apprenons de ce verset, « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps, sur le bois. » Donc, Jésus-Christ a accepté d'être une malédiction pour nous. Vous voyez, dans le langage biblique, quand on parle ici d'un terme un peu archaïque, le bois, ça fait une allusion à la croix. Vous pouvez regarder Galates chapitre 3, verset 13. Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit est quiconque pendu au bois. » Et la pendaison au bois, la crucifixion sur le bois, évoque la façon la plus infamante de mourir, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le monde grec de l'Antiquité. Exemple, dans Deutéronome 21, verset 23, quand on parle d'un fils qui désobéit à ses parents, la loi qui était donnée est ainsi. Hein, le fils doit être crucifié sur le bois, c'est fort, n'est-ce pas? Et le cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même, car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Cette sévérité, c'est que Dieu veut purifier le pays de toute désobéissance, de toute révolte, et au sein même de la famille. Parce que si vous lisez le contexte de Deutéronome 21, il s'agit de questions d'obéissance d'un fils, des enfants, aux parents ici. Dieu veut éradiquer le mal partout et montrer qu'il est exigeant, sa nature exige la perfection. Et ici, parlons de l'obéissance. Acte 10, 39, nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Donc, Jésus a accepté d'être une malédiction pour nous en étant pendu au bois. Et dernier point, lui qui a porté nos péchés en son corps. La mort de Jésus-Christ est une substitution, je dirais, pénale. Pourquoi? Parce que ce verset 24, en fin de compte, n'est que la réponse à ce qui est posé par Pierre dans le verset 21 du chapitre 2. Il est dit dans le chapitre 2, verset 21, « Christ a aussi souffert pour vous. » Et il va argumenter, « Mais comment ?» Comment ça pour vous? Et il va donner la réponse dans le passage que nous venons de rappeler. Il a porté nos péchés en son corps. Je souligne la petite préposition qui est très importante en grec. Ici, le mot hyper, pour, qui est la préposition en grec, hyper. Et il dénote surtout le fait de la substitution. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un transfert de nos péchés sur Christ. Ou pour le dire autrement, il se substitue pour nous. Et pour être plus clair encore, Pierre, dans chapitre 3, verset 18, il va dire « Le juste à la place des injustes ». Ça, c'est la notion de substitution. Donc, il fait argumenter le verset 24 à la réponse « Comment ça se fait qu'il a souffert pour vous ?» Et la réponse emportant nos péchés en son corps. Et donc, le « pour » ici indique ce terme important, donc la proposition qui indique la notion de substitution à la place de, à notre place, lui qui est juste à la place des injustes. Mais on peut souligner aussi, je dirais, l'aspect juridique, parce que j'ai parlé de substitution pénale. Parce que quand on dit « il a porté nos péchés », sur lui-même, ça évoque une peine qui est subie comme une sanction. C'est pour cela qu'on qualifie la mort de Christ aussi comme une substitution pénale. La peine que je mérite, il l'a subie à ma place. Et vous savez, la doctrine de l'expiation par substitution est enseignée dans toute la Bible. Je ne veux que citer quelques versets pour vous montrer la réalité de cela. Par exemple, dans Galates 1, verset 4, vous pouvez le voir vous-même avec moi, Galates 1, verset 4, Christ s'est donné lui-même pour nos péchés. Et le pour, c'est la préposition hyper, à la place de. Donc, il s'est donné lui-même pour nos péchés. 1 Corinthiens 15, 3, Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Voyez encore le préfixe, préposition pour. Nos péchés, c'est la substitution à notre place, et cela selon les Écritures. Tite 2,14, il s'est donné lui-même pour nous. Et pour terminer, Hébreux 2,9, il a souffert la mort pour tous. Donc, en conclusion, cette doctrine est indéniable, que pour enlever le péché, il fallait une victime innocente symbolisée par ces animaux qui étaient offerts en sacrifice dans l'Ancien Testament, mais qui représentent plus tard le Seigneur Jésus-Christ, le sacrifice parfait, qui est mort à notre place pour porter nos péchés en son corps. Mais ce qui est intéressant, et je trouve vraiment fort, c'est que l'apôtre Pierre fait allusion à cette doctrine étroitement liée avec la notion d'éthique. Je veux vous le prouver de trois manières. Regardez, j'aimerais que vous le regardiez en terminant là-dessus. 1 Pierre chapitre 1, versets 18 et 19. Donc la doctrine de l'expiation est partout dans la Bible. Mais ce qui est nouveau, et l'éclairage, je dirais, nouvel pour nous, c'est que Pierre va étroitement le lier avec la notion de vie pratique dans notre quotidien. Et n'oublions pas le contexte, c'est pour des chrétiens qui souffraient et d'une manière injuste. 1 Pierre chapitre 1, versets 18 et 19. Et j'aimerais, en lisant cela, que vous ayez en pensée les deux choses, la doctrine et l'éthique à côté. Donc nous allons lire 1 Pierre 1, 18 et 19. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Nous voyons dans le verset 19 la doctrine de l'expiation, représentée par le sang. Et cela, c'est lié à quelle exhortation? L'exhortation, c'est que pour que vous étiez rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Vous voyez, le sang précieux mise en parallèle avec l'exhortation de ne plus vivre avec la manière de vivre ancienne que nous avons hérité de nos pères. La doctrine de l'expiation est étroitement liée à l'exhortation qui est l'éthique ici de vie de tous les jours. Continuons 1 Pierre 2:24 que nous avons développé à l'instant. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, voilà la doctrine. Il est rattaché à quelle exhortation? Pour que nous vivions pour la justice. Ça, c'est l'éthique. Mais un peu plus loin, verset 19, encore une raison pourquoi il a porté lui-même nos péchés en son corps, verset 19. Parce que c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. Donc vous voyez très bien ici encore, la doctrine de l'expiation est étroitement liée à l'exhortation pour une éthique biblique, hein, motivée donc par une manière de vivre pour la justice, mais aussi de supporter des souffrances subies injustement. Et dernier point, 1 Pierre 3:18. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. Et ce verset 18 est rattaché à l'exhortation du verset 17 juste avant. Car il vaut mieux souffrir si telle est la volonté de Dieu en faisant le bien qu'en faisant le mal. Il va dire, Christ aussi a souffert une fois pour les péchés. Vous voyez encore, la doctrine de l'expiation est étroitement liée avec l'exhortation ici de souffrir en faisant le bien si telle est la volonté de Dieu. Et il va donner la base de la doctrine de l'expiation. Ça, c'est un éclairage. Pour moi, c'était vraiment fort et dense de voir combien c'est inséparable la doctrine, l'enseignement que nous avons avec la vie que nous menons. Et Pierre, ici, est en train de le montrer. Donc, rappelons-nous ce matin que la souffrance injuste n'a pas amené Jésus à pécher. Imitons-le aussi. Ne faisons pas comme la femme de Job. J'ai cité un exemple. La souffrance n'a pas amené Jésus à mentir. Imitons-le. Ne faisons pas comme Abraham. Ne faisons pas comme Pierre lui-même. Et la souffrance n'a pas amené Jésus à se venger. Je n'ai pas cité, mais on aurait pu citer l'apôtre Pierre lui-même, qui s'est vengé en coupant les oreilles de quelqu'un lors de ce moment de la crucifixion, avant la crucifixion. Je pense à David lui-même, qui avait l'occasion de tuer Saul. Il dit, jamais, c'est hors de moi d'aller porter la main sur l'élu de Dieu, David. Je pense à présent, aurait l'occasion de se venger de Saul. Il ne l'a pas fait. Pourtant, Saul en voulait à sa vie. Et il dit, je ne porterai jamais mes mains sur loin de Dieu. Quel exemple. Et la souffrance n'a pas amené Jésus à faire de menaces. Au contraire, Il a montré la douceur. On lui a enlevé les moyens. J'ai lu selon le Talmud, le procès tellement accéléré, de telle sorte qu'on cherche vite à se débarrasser pour qu'il soit crucifié. Les moyens de se défendre même. Il aurait pu le dire. Mais il l'a mis de côté. Il a cédé à ses droits. Nous sommes aussi exhortés à montrer de la douceur. La douceur, c'est une force de caractère pour celui qui accepte de céder ses droits, sachant qu'il a le droit. Et pour terminer, l'injustice, devant l'injustice, le Seigneur Jésus-Christ a subi le verdict des tribunaux humains, mais après être considéré comme malfaiteur, il se remettait, se livrait au tribunal divin. Quel exemple ! C'est le seul tribunal impartial et qui va juger tout acte ici-bas que nous commettons nous-mêmes, mais que nous avons pu aussi subir, et c'est lui qui jugera. Faites-vous confiance en ce tribunal. Prions le Seigneur.